8h31. La revue de presse, bonjour Claude Askolovitch.
Bonjour Nicolas.
On parle d'un footballeur de 18 ans ce matin.
Et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, à qui on demande beaucoup sauver l'équipe de France, mais aussi sauver le monde. Place aux jeunes, un seul jeune, le jeune c'est lui, c'est le titre de l'équipe deux jours avant Bulgarie-France. Un affrontement périlleux, le Parisien aujourd'hui en France nous en rappelle des précédents douloureux, mais Mbappé est la solution. Ceci n'est que du football, ce n'est donc pratiquement rien en comparaison du reste. Mbappé, nous dit Libération, est la prochaine superstar globale. C'est ce qu'on peut lire dans une ode écrite par un historien. Il y a plein d'historiens dans Libé ce matin. Visiblement, amoureux du jeune footballeur. Mbappé est un prodige rapide, puissant, doté d'une remarquable vision du jeu. Mais plus que ça encore, c'est un grand politique. On le surnomme le petit Obama. Oui, Obama. Et Libération assigne un destin à Mbappé, rien moins que réconcilier le football français avec ses enfants de banlieue. Ainsi, Obama avait offert au monde une face rassurante de la communauté noire américaine. Mbappé, c'est bien une preuve, est aussi célébré dans Paris Match. On apprend ainsi que dans sa famille, on y aime la poésie et les grands auteurs. Et Mbappé aime Oscar Wilde, je cite, « Pour atterrir sur la Lune, il faut viser les étoiles ». Et si vous trouvez, Nicolas, que tout ceci est un peu exagéré, disons médiatique, eh bien la mémoire d'Internet m'a ramené un texte publié début septembre par le Bondy Blog, le site des banlieues, où un jeune homme du nom de Cosi Pastaka tutoyait en frère la star du PSG. « Kylian, comme toi, j'ai grandi à Bondy. Laisse-moi te faire part de ma fierté. Comment oublier le stade Léo Lagrange, Robert Gazi, la Mare à la Veuve ou encore les City Stades comme celui de Blanqui. Blanqui, révolutionnaire français et un stade de Bondy, ville d'où nous viendrait le salut. C'est la vertu que l'on prête au football ce matin. Tiens, à propos, dans Les Inrecuptibles, on nous parle d'une équipe de football à Naples vouée et dévouée aux migrants. Ce n'est pas du Mbappé ou du Obama, mais c'est déjà une petite manière de nous sauver.
Pour le reste, le scandale du glyphosate est dans l'Obs et le Monde.
Avec dans l'Obs un visage d'enfant, le petit Théo Grataloup, 10 ans, il est né avec un œsophage tronqué et une trachée mal formée. Enceinte, sa maman Sabine avait vaporisé un générique du Roundup, le fameux désherbant au glyphosate de la firme Monsanto. L'Obs publie les extraits d'un livre qui s'appelle « Le Roundup face à ses juges ». On y parle de cochons à deux têtes, d'enfants mal formés et d'hommes aux reins rongés. On y parle aussi d'une étude scientifique possiblement truquée par Monsanto dans les années 70. Et ceci glace plus encore que le reste les méthodes de la firme pour se protéger. Une manipulation systématique de la science, c'est l'accusation que porte Le Monde à partir des Monsanto Papers. Ce sont des dizaines de milliers de documents internes aux géants de l'agrochimie qui deviennent publics et qui sont analysés. On voit dans Le Monde comment Monsanto écrit des textes que des scientifiques acceptent de signer. Exemple de Henry Miller, simple homonymie avec l'écrivain, un biologiste que Monsanto contactait en 2015, en février, juste avant un verdict accablant du Centre international de recherche sur le cancer à propos du glyphosate. Citation du Monde. Un cadre de la compagnie sollicite Miller. Souhaitez-vous en écrire davantage au sujet du Centre international de recherche contre le cancer et sa décision controversée? J'ai les informations de base et je peux les fournir si besoin. Monsieur Miller accepte, mais à condition de partir d'un brouillon de haute qualité. De fait, le texte qui lui est transmis, dit Le Monde, semble être de haute qualité. Il sera publié, presque sans modification, sur le site de Forbes. Le Monde raconte aussi comment une étude française d'un chercheur, Gilles-Éric Serralini, terrible pour le Roundup et le glyphosate, avait été rayée des archives d'une revue, la Food and Chemical Toxicology, par un rédacteur en chef qui était, par ailleurs, avec un contrat de consultant de Monsanto. Voilà comment on veut nous empêcher de penser, mais tout finit par revenir.
Il est 8h35, un anniversaire, Claude, dans le Figaro.
Et nous parlons ici de quelque chose de sacré, le Figaro. Littéraire, le supplément littéraire du grand journal, à 70 ans et cadeau, le journal nous offre quelques grandes critiques qui font écho à notre actualité d'aujourd'hui. Ainsi, celle d'un homme qui a été un grand critique et un grand écrivain, Guy Leclercq, sur Gabriel Garcia Marquez et 100 ans de solitude en 1969. À Macondo, les hommes sont condamnés à engendrer des enfants à queue de cochon, symbole burlesque d'un continent soumis à un destin qu'il n'a pas choisi. On pense à ce que peut nous faire un Monsanto quelconque. En ce jour aussi, on en parle de Mbappé. Voilà ce qu'écrivait François Mauriac en 1954 sur François Sagan, un charmant petit monstre de 18 ans, couronné du prix des critiques. C'était à la une du journal, je cite Mauriac. Il existe une insensibilité, je ne sais quelle férocité lucide parfois chez les adolescents. La France vit des jours d'angoisse, son destin se noue. Qu'est-ce que cela a à voir avec le roman d'une petite fille trop douée? Ceci à mon avis, que le choix d'un jury littéraire devrait manifester au monde et d'abord à nous-mêmes que nous sommes réveillés de notre assoupissement, que nous n'irions plus ce qui se trouve en jeu. Voilà, il fallait déjà nous sauver, aujourd'hui par le football qui a 18 ans, alors par un livre. On baigne, lisant le Figaro littéraire, dans une nostalgie à laquelle seule pourrait se comparer celle des socialistes quand ils pensent à Dominique Strauss-Kahn. C'est raconté dans l'Opinion, il est allé tirer des larmes à ses anciens camarades en rendant hommage à l'ancienne ministre Nicole Bric. Mais tout ceci est un peu vulgaire, c'est de la politique. Restons littéraires, allons acheter le 1 pour son très beau dossier sur la langue française. C'est la langue qui bouge et qui nous fait français. Et puis, écoutez les mots d'un homme qui s'appelle Philippe Lançon. C'est dans Charlie Hebdo. Lançon est un des rescapés de la tuerie de janvier 2015. Il raconte, ça parle de la radio aussi, ce qu'il éprouve en nous écoutant. « Parfois, dit Lançon, en faisant mes grimaces thérapeutiques, je continue d'écouter une radio molle et nerveuse et tombe sur quelqu'un de connu que j'ai connu quand il n'était pas connu. Il finira comme vous, comme moi, dans un endroit sans lumière, sans public, sans bruit, plutôt à l'étroit. Peut-être son cadavre continuera-t-il à informer les asticots. » Et Lançon nous parle depuis la sagesse noire du retrait. Il parle aussi d'un infirmier qui lui parle de Montaigne, qui comme lui avait frôlé la mort et avait voulu s'y abandonner. Montaigne était tombé de cheval. Et se souvenant, écrivait ceci. Il me semblait que la vie ne tenait plus qu'au bout des lèvres. Je fermais les yeux pour aider ce qui me semblait la pousser dehors et prenais plaisir à m'alanguir et me laisser aller. Finalement, Montaigne a vécu, Lançon vit. Ce matin, nous avons entendu du Montaigne, du Mauriac, du Lançon. Et donc vous, monsieur Leclésio, vous êtes d'ailleurs aussi dans le Figaro littéraire. Ce n'est pas rien pour commencer une journée.
Claude Askolovitch, merci.